France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Alors, on va pas faire comme si rien ne s'était passé ces dernières années. Les premières directives importantes ou obligations autour du bien-être des animaux que nous mangeons, elles datent de 1999 et puis 2007, 2008, 2015. Entre autres, les conditions d'abattage ont changé, les conditions d'élevage, les obligations de nombre d'animaux par mètre carré, s'agissant notamment des poulets, mais pas seulement. L'élevage bio impose des surfaces minimums et des pâturages, la fin de l'écrasement des poussins, la fin de la castration à vif pour les porcs. Les éleveurs sont attentifs, ils sont conscients que ça compte. Très bien, mais et vous? Et vous, consommateurs, est-ce que vos habitudes alimentaires changent en fonction du bien-être animal? Est-ce que vous savez ce que disent les étiquettes? Pour les poulets, c'est assez facile, 4-3-2-1-0, élevé en plein air ou pas. Pour les bovins, le plus souvent, ça peut l'être aussi, mais tout le monde ne peut pas aller acheter sa viande chez le producteur qu'il connaît. À quand un équivalent Nutri-Score, tel que... Est-ce qu'il existe déjà d'ailleurs, qui regarderait non seulement l'origine d'un animal, la manière dont il a été nourri, si on lui a donné des antibiotiques par exemple, mais aussi dans quelles conditions il a été élevé? Une étiquette que vous trouverez, que vous trouveriez sur votre viande au supermarché. Est-ce qu'un label garantit aussi le bien-être ou simplement le type de nourriture? Certains d'entre vous ont abandonné la viande parce que ça vous est insupportable d'imaginer un animal élevé pour être mangé. Peut-être que vous avez réduit votre consommation pour vous intéresser aux conditions de vie des animaux. Vous êtes nombreux dans ce cas-là. Alors je vous entends déjà nous expliquer combien ça compte pour vous. Je vous opposerai quand même quelques chiffres. Le nombre de poulets par exemple élevés en plein air a baissé dans votre panier de course, comme d'ailleurs les légumes bio ont marqué le pas ces derniers mois. Est-ce qu'un jour, ça c'est la vraie question qui fâche chez nous en France, est-ce qu'un jour nous finirons par arrêter de manger du foie gras parce que le gavage nous devient insupportable? Est-ce que notre façon de manger de la viande, qu'elle soit rouge, qu'elle soit blanche, a été bouleversée par notre préoccupation du bien-être animal? C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, la première, c'est vous, Dominique, vous êtes dans le Puy-de-Dôme, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Moi, j'avais deux éléments. La première chose, c'est un témoignage sur le fait que je mange énormément moins de viande en relation avec cette notion de bien-être animal. Et j'ai besoin de savoir ce que je mange aujourd'hui, comment ça a été élevé, d'une part, et surtout comment ça a été tué. Mmh. Donc ça, c'est mon expérience et mon évolution. Et si je peux me permettre, une deuxième participation qui est un coup de gueule sur aujourd'hui l'abattage en France qui a évolué vers un abattage qui est énormément plus rituel. Mmh. Et je ne supporte pas l'idée qu'on m'impose et que ce ne soit pas, il n'y ait pas d'avertissement sur la viande, qu'on m'impose un abattage rituel, c'est-à-dire sans étourdissement avant l'abattage.
Merci Dominique pour cette entrée en matière et pour, on a bien compris à la fois ce qui vous révolte et aussi quel a été votre cheminement à vous. Il y a beaucoup de gens au standard qui, comme vous, ont fait un cheminement pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Romain Espinoza, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste au CIRED, le Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement. Il y a Aurélia Varin qui est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'association Étiquette BEA, Bien-être Animal. Vous êtes avec nous en duplex de Dijon. On remercie nos amis d'ici. Vous rassemblez des éleveurs et des associations de protection animale. Vous éditez justement votre propre Nutri-Score et vous allez bien sûr nous expliquer comment ça marche. D'abord un mot, Romain Espinoza. J'ai l'impression qu'il y a, d'une certaine façon, il faut la mettre sous verre, Dominique, parce qu'elle elle est assez représentative de ce que nous sommes tous et de ce que nous sommes tous un peu devenus, en fait. Plus des flexitariens, on va dire, que de grands carnivores. Ça, c'est une vraie tendance, visiblement.
Alors, je pense que la vraie tendance, effectivement, c'est qu'on s'intéresse au bien-être animal. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment, depuis de très nombreuses années, c'est quelque chose de très fort. On le voit, par exemple, une des mesures les plus stables et les plus populaires, c'est 90% des Français contre l'élevage intensif. Ça montre vraiment voilà, ce soutien. Mm-hmm. Après, ce qu'on a vu ces dernières années, effectivement, c'est un souci aussi mêlé au local, un problème d'inflation, vous en parliez au début, qui fait que c'est compliqué de tout mélanger. Et aussi, une volonté de peut-être manger moins, mais mieux. Mm-hmm. Le problème, quand on prend un peu de recul, c'est que le ministère de l'Agriculture a communiqué dessus déjà il y a un peu plus d'un an et demi. Quand on regarde les chiffres un peu agrégés au niveau de la France, la consommation de viande est relativement stable. Mmh. Grosso modo, depuis le milieu des années 2000, 2010, etc., on est sur une consommation qui est à peu près stable. Alors ça peut jouer à 1 ou 2 kilos par an de différence par habitant, mais en fait, ça pose un vrai problème. On voit que beaucoup de gens se déclarent flexitariens, et au final, quand on fait les comptes, on se rend compte que c'est relativement stable. Alors soit il y a une grosse partie de la population qui s'est mis à manger beaucoup beaucoup plus, mais c'est quand même pas très clair, donc c'est possible aussi qu'on surestime un petit peu notre réduction de consommation.
Est-ce que malgré tout on est, et ça se voit, est-ce que ça se mesure si on est plus concerné ou pas par le bien-être animal dans ce qu'on achète, ou est-ce que ça aussi c'est effacé par les chiffres?
Alors, il y a plusieurs vagues d'enquêtes qui nous montrent que ce qui est important pour les gens, et entre autres pourquoi est-ce qu'ils voudraient diminuer leur consommation de viande. Moi, j'appelle ça généralement le triptyque environnement, santé, bien-être animal. C'est vraiment trois causes les plus importantes. On les retrouve à peu près à même hauteur dans plusieurs études. Ce qui a vraiment boomé ces dernières années, c'est la question de l'inflation. Mmh. Maintenant, il y a aussi eu beaucoup plus de flexitariens contraints qui ont dû réduire leurs dépenses voilà, en termes de viande.
Après, c'est intéressant parce que moi, j'ai ces chiffres-là, effectivement, de critères d'achat, en fait. Hein, mmh. Et ils disent, un, la provenance locale, deux, le goût, trois, le prix, et quatre, le fait que la viande soit produite dans un élevage qui respecte le bien-être animal. Donc on arrive au fond en quatrième position. Moi, ce que je trouve intéressant, vous allez peut-être nous aider pour répondre à ça, Aurélia Varin, d'abord la provenance locale. Est-ce qu'au fond, on part du principe que quand il y a provenance locale, il y a forcément respect du bien-être animal, et est-ce qu'on a raison de le penser ou est-ce qu'on se trompe?
Alors effectivement, les quatre premières raisons d'achat, en fait, elles sont mêlées. Hein. Ça, faut en avoir conscience, c'est que le consommateur, il va pas uniquement prendre local et ne pas regarder le prix, ou uniquement prendre bien-être animal et ne pas regarder l'origine. C'est vraiment un mélange. En ce qui concerne le bien-être animal en tant que tel, à part quand on connaît l'éleveur et quand on peut discuter avec lui et voir ses poules qui gambattent dehors, sinon le local n'est pas un élément de critère objectif pour le mesurer. En l'occurrence, le bien-être animal, c'est une notion qui peut être évaluée de manière scientifique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut observer différents éléments sur les animaux, autour de l'animal, la manière dont l'éleveur s'occupe des animaux, pour pouvoir l'objectiver et pouvoir ensuite le cranter par niveau. Est-ce que ce niveau est supérieur? Est-ce qu'il est vraiment très bon? Ou est-ce qu'il est acceptable? Ou est-ce qu'il est vraiment pas acceptable?
Mais alors, vous, expliquez-nous, Aurélia Varin, parce que quand vous rassemblez des éleveurs, des associations de protection, vous éditez une sorte de Nutri-Score. Qu'est-ce que ça dit, en fait, ce Nutri-Score? Et surtout, vous allez nous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut pas inventer un Nutri-Score qui serait, pour le coup, un vrai Nutri-Score bien-être animal, un peu comme on le voit sur les boîtes d'œufs, en fait.
Alors, c'est exactement l'objectif de l'étiquette bien-être animal, qui est un score de A à E, avec les notes A, B, C, qui sont trois niveaux significatifs de bien-être animal positif. Donc, on a le niveau A qui est supérieur, on a le niveau B qui est bien, et on a le niveau C qui est assez bien. Et puis ensuite, on a les deux niveaux D et E qui représentent des niveaux de bien-être animal qui ne sont pas soutenus, notamment par les ONG de protection animale ou par les données scientifiques.
Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on commence à être dans les mauvais scores dès lors que des poules, par exemple, ne sont pas en plein air? Est-ce que déjà, ou est-ce que dès qu'on est en B ou en C, on peut déjà avoir des poules rentrées?
Alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, on va regarder chaque animal, chaque production, et en fait, on va regarder ce que la science, ce que les éleveurs font, ce que les autres labels aussi dans le monde font, et on va effectivement dire que typiquement, un poulet, pour être au niveau A, aujourd'hui, en France, il doit effectivement avoir accès au plein air, parce qu'on sait que, scientifiquement, il y a un nombre d'éléments importants qui nous disent que les poulets sont mieux quand ils sortent en plein air. C'est pas forcément le cas pour toutes les espèces, et bien évidemment, ce n'est pas que le plein air. On va avoir beaucoup d'autres éléments sur toute sa vie, de sa naissance, mais aussi jusqu'à l'abattage. Votre auditrice le disait, effectivement, les conditions d'abattage sont un sujet qui importe pour un grand nombre de consommateurs, et c'est un élément qui est pris en compte aujourd'hui dans l'étiquette bien-être animal.
Est-ce qu'on peut imaginer, Romain Espinoza, avant qu'on retourne au standard, qu'il y ait effectivement un véritable étiquetage? Est-ce que ça aiderait si vraiment chaque viande... Et alors, encore une fois, tant mieux pour les gens qui peuvent aller chez leur producteur acheter, évidemment, parce qu'ils ont de la chance, ils les voient vivre, mais on parle vraiment de la viande étiquetée en supermarché, par exemple. Est-ce qu'on peut l'imaginer, ça? Ça a du sens de l'imaginer ou pas?
Alors, oui et non. Où c'est compliqué, il y a plein de choses. C'est déjà sur le Nutri-Score, je rappelle qu'il y a eu une opposition à l'époque très forte entre le ministère de l'Agriculture et de la Santé. Le ministère de la Santé a gagné à pas grand-chose. Mais si vous voulez, le problème, c'est quand on a des mesures qui sont purement volontaires, on est perdu parce que certains décident de mettre le label, d'autres non, etc. On ne sait pas ce qui se passe.
C'est pour ça que je posais la question de savoir si le label était oui ou non une garantie, parce qu'au fond, on finit par plus trop savoir ce qu'il y a derrière le label parfois.
C'est important, pourquoi? Parce que déjà, il faut donner l'information aux consommateurs et aux consommatrices. Et ensuite, l'exemple de l'étiquette bien-être animal, animal, ça crée aussi un cadre de référence sur lequel le législateur peut construire. Donc ça, c'est important qu'on ne parte pas de rien. Mmh. Ensuite, moi, je suis personnellement persuadé que la question du bien-être animal, c'est une question collective. Ça ne doit pas être à l'individu seul, devant son caddie au supermarché, de décider de mettre 3 euros de plus, 4 euros de plus pour un produit. C'est quelque chose qu'on doit faire tous ensemble, et c'est pour ça que pour moi, la meilleure solution, c'est de changer les pratiques, comme par exemple l'interdiction d'élevage en cage dans toute l'Union européenne, etc., qui permet vraiment de s'assurer une concurrence aussi, sur un peu des mêmes termes, et qui permet de collectivement s'engager pour un meilleur niveau de bien-être animal.
Alors après, on y viendra d'ailleurs, il y a ce que nous produisons nous, ce que nous élevons nous, et puis ce qu'on trouve dans nos supermarchés qui vient d'ailleurs, qui est là non seulement très peu étiqueté, et on l'a bien vu pendant les crises agricoles, mais qui est élevé aussi dans des conditions qui sont évidemment très différentes. On parlait de connaître son éleveur. Philippe est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors vous, j'imagine que vos voisins et les gens que vous nourrissez vous connaissent en fait.
Alors oui, les gens me connaissent, mais c'est vrai que j'ai aussi la particularité d'être en agriculture biologique, et c'est cette particularité en fait qui fait que toute personne qui va consommer du lait issu de ma ferme ou de la viande issue des vaches de réforme aura la garantie que mes animaux ont été élevés selon un cahier des charges qui intègre depuis le départ, depuis sa création, le bien-être animal.
Et jusqu'à l'abattage, Philippe, ou pas?
Alors oui, puisque les abattoirs sont aussi certifiés, donc contrôlés sur ces aspects-là. Alors il y a eu un ou deux exemples d'abattoirs mixtes où il y avait eu des pratiques, mais en fait on est dans le cadre de dérives après contrôle. C'est-à-dire c'est des gens qui ont disjoncté ou qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire dans le cadre de leur dans le cadre de leur travail, dans le cadre du cahier des charges qu'ils respectent en fait.
Vous êtes bio depuis combien de temps, Philippe?
Alors en fait, ça fait 25 ans que je suis en bio, et donc alors comme ça fait longtemps, en fait, je pousse aussi les pratiques plus loin que ce que me demande le cahier des charges, ce qui fait que durant l'hiver, en fait, mes animaux continuent à pâturer. Alors pas tous les jours, parce qu'en fonction de la météo, etc. Mais je vais jusque-là. Donc j'essaye vraiment d'appliquer en fait ce principe de bien-être animal, parce que pour moi, il fait partie, enfin votre intervenant l'a dit juste avant, en fait, il fait partie du triptyque environnement, santé, bien-être animal. C'est quelque chose qui est une évidence pour moi aujourd'hui. Enfin, vous voyez, j'ai bientôt 60 ans, donc j'ai complètement intégré ça depuis longtemps. Et c'est le cahier des charges de la bio qui m'a aussi aidé à avancer plus loin dans ces questions-là, parce qu'il y a 30 ans, quand je me suis installé, c'était pas non plus si évident que ça.
Mais aujourd'hui, pardon Philippe, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de faire toujours figure, peut-être un peu d'exception autour de vous, autour de vos collègues éleveurs, ou est-ce que pas du tout, vous avez au contraire le sentiment d'avoir fait des émules?
Oula, alors, on va dire que dans le contexte actuel... On n'est pas ceux qui sont mis en avant. Enfin, vous voyez bien tout le contexte de mise en scène là, autour de la crise agricole, etc. Très clairement, la bio fait partie un peu des gens qui ont été un peu mis sur le côté, en fait, parce que trop de contraintes, parce que trop d'environnement, etc. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas porté. Alors, c'est vraiment intéressant votre émission. Parce que justement, elle vient mettre un contrepoint et elle vient redire qu'en fait, il y a des vrais passerelles qui sont possibles entre les consommateurs et les producteurs, et qu'il n'y a pas du tout d'opposition.
Merci.
Mais évidemment, on n'est pas majoritaire, hein. on est très loin aujourd'hui, et ça fait du bien que vous nous donniez la parole.
Eh bien écoutez, on a été ravis de vous entendre, Philippe. En tout cas, merci beaucoup de votre appel. Pas majoritaire, Romain Espinoza. Oui, c'est compliqué. Et puis c'est compliqué à vendre aussi, quand on a une viande qui forcément peut avoir un autre prix ou pas?
Ah bien sûr, c'est vrai sur la viande, c'est vrai sur le lait, c'est vrai sur les œufs, etc.
C'est vrai sur le poulet, c'est vrai sur tout.
Surtout. C'est pour ça que je rappelle encore une fois que je pense que la pire des décisions, c'est de laisser le consommateur finalement seul face à ça. Parce que là, on voit bien que c'est pas juste. Il y a un problème de concurrence, c'est-à-dire quelqu'un qui investit dans le bien-être animal et qui finalement va être au niveau des prix en compétition avec d'autres produits, très peu de labellisation, etc. Et vous êtes au supermarché, vous vous dites, est-ce que je paie un euro de plus mon produit? Mon impact va être quasiment nul. Donc là, on a un vrai problème de concertation, de politique, etc. Et on pourrait tout simplement commencer par réorienter, par exemple, les subventions vers ces pratiques plus vertueuses. Et effectivement, on voit aussi que... y a des co-bénéfices sur l'environnement, etc. Et donc c'est des choses importantes à prendre en compte.
Vous qui travaillez, Aurélia Varin, avec des associations de protection des animaux, mais aussi avec des industriels, etc. Jusqu'à quel point le prix est un obstacle? Jusqu'à quel point on peut contourner cet obstacle du prix? Parce qu'au fond, on peut se dire, s'agissant notamment, je passe à notre ami Philippe, s'agissant de la viande rouge, on peut se dire assez facilement, finalement, il y a un certain nombre de produits dont on ne peut pas se passer. La viande, si, on peut les se passer. Donc, est-ce que le prix compte tout autant? Est-ce que c'est un argument que vous pouvez contourner?
Alors effectivement, nous dans l'étiquette bien-être animal, on met autour de la table des éleveurs, des industriels, des supermarchés et puis des associations de protection animale et des scientifiques pour discuter sur quels sont les critères qui vont nous permettre d'évaluer le bien-être animal et bien évidemment la question de coût, question de rentabilité d'élevage, elle est toujours présente et c'est absolument normal. Ce qui est important quand même de savoir, c'est que l'accès à l'information offre aux consommateurs une liberté qui est plus importante que quand il n'a pas accès à cette information. Et on a eu un bel exemple avec justement les œufs. Vous en parliez au tout départ avec les codes sur l'œuf qui vous expliquent 0, 1, élevé en plein air. Si vous avez le code 2, c'est élevé au sol. Le code 3, c'est en cage. Depuis que cette réglementation européenne a été mise en place, on a vu une explosion littéralement du pourcentage des œufs de poules élevés en plein air dans les rayons. Pourtant, ces œufs coûtaient plus cher. Pourtant, d'un point de vue nutritionnel et santé, ils apportaient des bénéfices égaux aux œufs de poules élevés en cage. Mais c'est bien uniquement motivé par le souhait de sortir les poules des cages que les consommateurs se sont détournés de ces œufs. Donc, on a vraiment un exemple avec ces œufs de poules élevés en cage qu'on peut, en informant le consommateur et en lui apportant une information qui est complète et transparente, modifier les actes d'achat, même si je suis tout à fait d'accord avec M. Espinoza, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est un levier,
c'est ça,
en
mais
plus
je trouve
des réglementaires,
ça...
en plus...
Voilà, je trouve ça intéressant, Aurélia Varin, ce que vous dites, parce qu'effectivement, on se rend bien compte, on en a fait quelques émissions ici, que à certains égards, le bio marque le pas pour des raisons économiques, pour des raisons d'inflation, etc. S'agissant de la viande, j'ai l'impression que les consommateurs ont une autre démarche, en effet, lorsque, effectivement, le prix de la viande est un peu plus élevé que la démarche qu'ils pourraient avoir lorsqu'il s'agit de pommes ou de tomates, pour dire les choses, Aurélia Varin.
Oui, oui, on le voit effectivement dans les éléments notamment de consommation de viande qui peuvent se reporter d'un type de viande à l'autre. Par exemple, des viandes rouges qui seraient estimées comme étant trop coûteuses et qui, du coup, il pourrait y avoir un rebasculement vers les viandes blanches. C'est ce qu'on voit hein, quand on a globalement une consommation à peu près identique de viande. Il se trouve qu'à l'intérieur, en fait, des types de viande, il y a des changements qui sont assez importants. Après, c'est quand même important, de rappeler que le label biologique propose des pratiques d'élevage qui sont très vertueuses pour les animaux, mais que ce n'est pas le seul. Il y a aussi d'autres labels, comme le label rouge, ou d'autres modes d'élevage qu'on met en avant dans l'étiquette bien-être animal, et qui entraînent des coûts sur la viande qui sont parfois inférieurs, dans certains cas, ça peut arriver, et parfois à peine supérieur en fait à la moyenne. Dans l'agriculture biologique, on a bien l'alimentation qui est bio. Et en fait, l'alimentation, quand on nourrit un animal avec des céréales bio, ces céréales bio coûtant 2 à 3 fois plus cher, de fait, la viande animale est 2 à 3 fois plus chère. Mais c'est important vraiment de distinguer, quand on parle de coût, le cas du bio, qui est quand même à part des différentes pratiques de bien-être animal qui ne sont pas toujours coûteuses.
Ouais, et après, on va accueillir dans un instant Manon Pisani, qui est éleveuse de porc. Mais juste un chiffre, puisqu'on parlait de label rouge, ce que j'ai trouvé intéressant, Romain Espinoza, juste en une minute, c'est que, oui, plus de 50% des poulets achetés, des poulets par exemple, là en l'occurrence c'est ce que j'ai sous les yeux, sont labellisés, label rouge, plus de 50%, lorsqu'il s'agit de poulets à la découpe. Alors ce chiffre tombe radicalement et on va vers quelque chose de beaucoup plus standard en fait, et c'est intéressant parce que les poulets à la découpe, c'est précisément ce qu'on peut trouver potentiellement dans les supermarchés ou les endroits comme ça.
Ah oui, c'est sûr. Alors il y a deux phénomènes que vous mentionnez. Le premier, c'est la viande transformée qui est en fait dans de très nombreux plats, et là on a très peu de contrôle en fait sur ce qui se passe, même sur parfois les œufs dans les qu'on appelle les ovoproduits dans les gâteaux, etc. Et ensuite, oui, il y a à peu près 4 poulets sur 5 en France qui n'ont pas accès à l'extérieur, quand on regarde au niveau global. Et typiquement, la volaille, c'est un cas d'extrême concentration. On a 77%, enfin quasiment 8 poulets sur 10 qui vivent dans des élevages de plus de 20 000 poulets. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur... Je veux préciser là-dessus, parce qu'on a parlé du bovin, il y a vraiment... trois secteurs très distincts, avec des enjeux différents. Il y a le bovin, où l'enjeu est plutôt environnemental. Et il y a la volaille et le porc, où là, l'enjeu est très clairement sur le bien-être animal.
Eh bien, allons-y sur le porc, justement. Bonsoir, Manon Pisani.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éleveuse de porc et de maïs, d'ailleurs aussi, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes aussi trésorière adjointe des jeunes agriculteurs. Moi, d'abord, combien vous avez de porc?
J'ai 450 porcs.
Déjà, je me demandais si votre exploitation aujourd'hui, au fond, était radicalement différente de ce qu'elle était il y a 20 ans. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà il y a 20 ans ou si c'était peut-être que vos parents l'avaient avant vous, mais vous le voyez, j'imagine, ce changement-là et cette préoccupation du bien-être animal qui n'était peut-être pas le cas quand vous avez démarré.
Alors, il y a 20 ans, l'exploitation, elle existait.
Elle n'existait pas, d'accord, merci.
Je n'étais pas non plus très très vieille. Enfin, j'étais encore à l'école primaire il y a 20 ans. Mais...
Marquise, je vois jeunes agriculteurs, j'aurais dû me méfier, parce que trésorière des jeunes agriculteurs, c'est pas faux. Pardon, allez-y.
C'est pas grave, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand bien même elle aurait existé il y a une vingtaine d'années, elle aurait absolument pas ressemblé à ce qu'elle est aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que depuis 20 ans, les règles en élevage de porc sur les questions de bien-être animal ont évolué, hein. Il fallait certainement, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, ça a évolué et ça ne ressemble pas à ce qu'il y a 20 ans, pour être
et il fallait peut-être, mais d'ailleurs, vous alliez le dire, Manon Pisani, mais allons-y, peut-être qu'il fallait en effet un coup de pression, non ?
Les coups de pression, ils ont été donnés et ils ont été traduits par un durcissement des règles sur les questions de bien-être animal. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il est interdit de laisser les truies, par exemple, pour être très concret, de laisser les truies enfermées 365 jours dans l'année. On a l'obligation de leur donner de la liberté sur la période de la gestation. Oui. C'est des choses qui
se faisaient pas.
Ce sont des évolutions, se faisait absolument pas. Sur les sujets de demain, il y a d'autres pistes d'évolution du bien-être animal dans nos élevages, mais la problématique, ça va être avec un consommateur qui a un budget qui se tend de plus en plus et qui est obligé de faire des arbitrages entre manger du bœuf ou manger du porc, vous l'avez dit tout à l'heure, mais entre manger français ou manger de la nourriture importée, ça c'est quelque chose d'important. Il faudra que la rémunération des éleveurs soit en accord avec les obligations d'amélioration du bien-être animal.
Allez-y.
Non, j'allais vous dire, moi je suis absolument pas contre remodeler mon élevage s'il faut le remodeler, mais par contre, je vivrais très mal le fait de devoir remodeler mon élevage pour répondre à des enjeux sociétaux sans avoir le retour économique de ces investissements-là.
Et sans que chacun soit obligé, j'imagine, vaste débat, aux mêmes normes et aux mêmes contraintes. Par exemple, il y a désormais des règles concernant la castration des porcs. Est-ce que nous sommes, nous, en France ou en Europe, particulièrement de haut niveau ou pas du tout? Ou est-ce que finalement tout le monde s'y est mis?
Non, aujourd'hui en France, tout le monde s'y est mis.
Maintenant, c'est obligatoire chez vous, on est d'accord. Et nos voisins?
Il y a deux écoles. Soit on ne castre pas les porcs, soit on les castre sous anesthésie locale pour diminuer les douleurs liées à l'acte chirurgical. Et après, sur ce qui se passe en Europe, il y a ceux qui font le choix de ne pas castrer leurs animaux, et puis il y a ceux qui castrent, mais là je ne saurais pas vous dire dans quelles conditions c'est fait, et c'est certainement pas dans les conditions qui nous sont imposées à nous, donc c'est-à-dire anesthésie locale des animaux, avec des tranquillisants en plus de ça.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer d'ailleurs, Manon Pisani, pourquoi on castre les porcs? C'est quoi la différence au goût? Est-ce que ce serait plus compliqué à manger? Est-ce que ce sont des goûts que nous avons perdus? Pourquoi est-ce qu'on castre les porcs?
Aujourd'hui, les porcs sont castrés parce que plus ils arrivent à maturité sexuelle, plus la viande est odorante. Et c'est ce que vous venez de dire, en fait, ce sont des goûts que nous n'avons plus l'habitude de manger, qui sont assez désagréables au moment de la cuisson et de la dégustation. Et en fait, sur des animaux qui sont abattus assez jeunes, il n'y a pas de problématique, mais sur des animaux qui sont abattus un petit peu plus vieux, parce que on souhaite une meilleure qualité de viande, peut-être un petit peu plus persillée, des choses comme ça, c'est quelque chose qui se ressent et c'est vraiment pas très agréable à la cuisson et à la dégustation.
Et je comprends, ouais. Manon Pisani, je vous remercie beaucoup. Il y a une chose dans ce que dit Manon Pisani, Romain Espinoza, que j'aimerais sur lequel j'aimerais que vous puissiez revenir. Alors effectivement, elle parlait du français et de l'importer, on comprend très bien ce qu'elle dit. Elle dit attention à ce qu'on est obligé de changer à cause de nos enjeux de société, nos enjeux sociétaux. Et c'est ça que ça dit aussi, au fond, les questionnements du bien-être animal. Nous, dans notre écosystème, nous avons ces enjeux-là et ces préoccupations-là, dans l'écosystème européen probablement aussi. Encore une fois, est-ce que nous sommes tout seuls, en fait, dans notre petit îlot européen ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut déjà décider qu'on a certains normes sur ce qui se vend en France. Et donc, à ce titre-là, on produira à ce niveau de normes et on ne vendra que à ce niveau de normes. Donc là, il n'y a pas de distorsion de concurrence dans la mesure où on ne va pas imposer des normes différentes pour les produits qui sont importés, etc. Mais bien sûr, c'est l'Europe qui a un rôle à jouer dans la négociation des contrats internationaux. Mais il faut être aussi honnête, la France ne pousse pas pour plus de régulation au niveau européen sur le bien-être animal, parce qu'aussi la France exporte de manière importante certains produits. Et on parlait tout à l'heure, Madame Varin parlait de la science, l'équilibre à trouver entre ce que dit la science, ce que dit la société, ce que dit le prix. On vient d'entendre la partie vraiment économique. Mais par exemple, sur l'élevage porcin, il y a l'agence européenne qui s'occupe du bien-être animal, qui a écrit un très long rapport, à peu près 800 pages, et qui fait des recommandations. Elle recommande par exemple la fin de l'élevage sur caillebotis, d'accord, qui est à cause du mal-être sacré sur les cochons. Aujourd'hui, c'est 9 élevages sur 10 en France. Elle recommande la fin de la coupe systématique des queues.
Ouais.
Ça, aujourd'hui, c'est encore systématique, même si c'est interdit en France. On a encore des vidéos assez récentes d'Emmanuel Macron qui vide des élevages, on voit les queues coupées. On a aussi il y a des recommandations d'arrêter de meuler ou de couper les dents des porcelets.
Pourquoi on meule les dents des porcelets, d'ailleurs ?
Parce qu'en fait, vous êtes dans des élevages avec des très fortes densités qui génèrent beaucoup de stress.
Okay. Donc, ils se mordent les uns les autres.
Ils se mordent les uns les autres, etc. Mais donc, du coup, on finit par leur meuler les dents et ensuite à leur couper les queues pour éviter qu'ils se mordent, en disant que c'est pour leur bien-être. Mais là, on voit en fait que ça se mord la queue. C'est parce qu'on les met trop ensemble. Donc, voilà, juste pour dire quand même qu'au niveau de la science et du bien-être animal, on est quand même très loin d'une situation optimale.
Un mot, Manon Pisani, puisque vous êtes restée... ils sont sur Caillebotti, vos porcs aussi, ou pas ?
Oui, mais mon élevage est très standard. Il correspond au modèle qu'on peut connaître, le modèle le plus courant qu'on connaît en France. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus malheureux que s'ils étaient en plein air. Aujourd'hui, il faut quand même se dire que l'ensemble des élevages français respectent un minimum de réglementation sur le bien-être animal. De toute façon, on reste une profession qui est très contrôlée. Sinon, on ne se serait pas battu pour la limitation de trop de contrôle. Et moi, j'ai l'impression que dès qu'un éleveur sort un petit peu du cadre, il est vite rappelé à l'ordre et a des obligations de se mettre rapidement dans les normes, sous peine de sanctions qui peuvent être assez importantes.
J'entends ce que vous nous dites, Manon Pisani, merci beaucoup. On va écouter deux éleveurs dans un instant, mais je voudrais revenir une seconde, Aurélia Varin, parce qu'on a beaucoup d'appels là-dessus. C'était l'une des remarques de notre première auditrice sur l'abattage rituel et le fait qu'il y a certains de normes, effectivement, pour les abattages qui ne sont pas obligatoires pour l'abattage rituel. Où est-ce qu'on en est là-dessus ?
Alors, on en est effectivement toujours là, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation européenne et française qui est assez, assez ancienne, qui demande l'étourdissement préalable de tout animal avant sa saignée, donc avant son abattage. Ah ouais. Et il se trouve que dans le cadre des rites religieux, il est possible de ne pas avoir cet étourdissement préalable, ce qui provoque des douleurs, en fait, et des souffrances particulièrement intenses, plus ou moins longues en fonction de l'espèce qu'on va abattre. Ça, c'est une pratique qui, varie en fonction des filières, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir du tout le même taux d'abattage sans étourdissement quand on parle des poulets de chair ou quand on parle des vaches ou même quand on parle des moutons, typiquement. Et c'est une pratique, typiquement, dans l'étiquette bien-être animal pour laquelle l'ensemble des acteurs autour de la table se sont mis d'accord pour ne pas accepter dans les niveaux ABC. Donc aujourd'hui, dans l'étiquette bien-être animal, si vous avez un niveau ABC qui est présent sur votre produit, ça veut dire que l'animal a reçu un étourdissement préalable lors de son abattage.
Et bien voilà, puisqu'on est dans ces questions d'abattage, je voudrais qu'on écoute Mickaël. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi je voulais réagir à votre émission sur l'aspect de la mise à mort des animaux. Donc nous on est éleveurs avec ma conjointe dans le Morbihan. Et donc on a des vaches laitières en bio. On accorde beaucoup d'importance à la qualité de vie de nos animaux et on essaie de respecter au maximum leurs besoins, donc de vivre en troupeau, d'être au pâturage au maximum. Et par contre, ce qu'on maîtrise moins, c'est la mise à mort. Mmh. C'est-à-dire que au moment de la mise à mort de nos animaux, elles doivent être chargées dans un camion, donc à un environnement qu'elles connaissent pas, et ensuite elles sont amenées dans un abattoir. Dans un environnement qu'elles ne connaissent pas, où là, il peut y avoir aussi des cadences d'abattage et un stress qui est phénoménal, quoi.
Ouais.
Donc, ce qu'on a fait, nous, avec des éleveurs du Morbihan, on a créé une association pour réabattre nos animaux sur les fermes, pour qu'elles soient abattues sur leur lieu de vie.
Est-ce que vous faites, donc, désormais, ou pas ?
Alors, l'association, elle est en train de se monter. Il y a des tout un tas de réglementations et de choses à mettre en place avant. Mais en gros, voilà, il y a des éleveurs qui bossent sur ces sujets-là, dans le 44, dans l'Atlantique et dans le Morbihan, entre autres.
Mais vous savez faire, Mickaël, ou il faudrait que vous fassiez venir quelqu'un, ou est-ce que vous savez le faire ?
Eh ben, dans notre groupe, il y a 3 éleveurs qui sont formés à l'abattage.
Ok. Voilà. Ok. Merci beaucoup. On va revenir sur ce que vous nous dites parce que c'est vraiment important. Mais je voudrais aussi qu'on écoute Marc. Bonsoir, Marc.
Oui, bonsoir.
Parce qu'on est autour de la même question et ça fait longtemps que vous nous attendez, Marc. On vous écoute.
Oui, en fait, je voulais faire un double témoignage. Le premier, sur le fait que je viens de la filière agricole, moi aussi. J'ai vécu dans une propriété en Ariège où mon beau-père était éleveur d'une quarantaine de bêtes de Limousine. Et on élevait le veau sous la mer bio qui partait régulièrement en semi-remorque, en engraissement en Italie pour revenir en France par la suite. Et j'ai souvenir de mon beau-père qui a arrêté, bien sûr, d'activité depuis très longtemps, depuis 30 ans. Et je me souviens très bien de son regard et sa tristesse et son désespoir quand il voyait partir ses bêtes dans un destin pour l'abattoir, quoi. Mmh. Et ça l'a toujours fait souffrir, ça a toujours ému, ça a toujours été un drame pour lui chaque fois que ça partait. Et il a arrêté l'activité en partie pour des raisons de santé, mais aussi par rapport à des problèmes de dépression, entre autres. Et le temps est passé et moi j'ai pas repris du tout l'activité. Mmh. Et je vis à la ville maintenant. Mmh. Et depuis 7-8 ans, je suis devenu végétarien. Mmh. Ayant vu des bêtes à l'abattoir moi-même quand j'étais gamin avec mon beau-père. Et aujourd'hui, avec le recul, et puis aussi peut-être les médias et puis les associations qui ont beaucoup œuvré pour communiquer sur ces messages-là. Mmh. J'ai fait mon cas de conscience et j'ai décidé d'être végétarien il y a quelques années. Mmh. Et je voudrais témoigner sur le fait, là aussi, que la transition vers le sans viande, vers le végétarien n'est pas très compliquée. Et c'est pas beaucoup d'efforts, en fait.
Merci beaucoup, Marc, pour votre témoignage. Et c'est vrai que le moment de l'abattage, Romain Espinoza, c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué pour les consommateurs d'imaginer. Et c'est vrai ce que nous dit Marc et ce que nous disait Mickaël juste avant. C'est un crève-cœur aussi pour les éleveurs, même si leur gagne-pain, c'est effectivement de transformer leurs animaux. Qu'est-ce qu'on pense de cette initiative de Mickaël ? Laissez-nous abattre les bêtes parce que nous, on sait faire.
Alors, le témoignage de Mickaël, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu de nombreuses fois. Ouais. J'ai déjà entendu des éleveurs, par exemple, très en colère après des vidéos de L114 dans les abattoirs, mais pas contre L114, contre les abattoirs.
Oui, bien sûr.
Je pense qu'encore une fois, on parle de l'élevage ce soir, c'est des situations très différentes. Vous avez beaucoup de petits élevages quand il s'agit de bovins, avec, je pense, des vrais liens qui se créent. Ce n'est pas du tout le cas quand vous êtes dans des élevages à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'animaux pour le porcin ou pour la volaille, on n'est pas du tout dans les mêmes cas. Donc oui, il y a plusieurs initiatives, je sais que c'est compliqué. Parfois, il y a aussi les abattoirs collectifs qui se créent. Ce qui est compliqué dans l'itinérance, c'est de pouvoir transporter tout le matériel et avoir le bon processus toute la durée de l'abattage pour optimiser le bien-être animal. Mmh. Donc ça peut être problématique. Sur l'abattage, je dirais quand même juste un petit point. Je pense que c'est important d'informer le consommateur, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas que c'est une période relativement courte dans la vie de l'animal. C'est-à-dire que si vous avez un animal, un porc par exemple, qui passe sa vie sur caillebotis, un mètre carré, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est la réglementation, un mètre carré toute sa vie, sans accès extérieur, etc., et que le dernier jour de sa vie, il est abattu sans étourdissement, c'est pas le problème. C'est un problème, oui, mais sur la vie de l'animal, déjà, c'est relativement petit. Donc je pense que, moi je suis tout à fait pour l'information, donc il faut le mettre, mais il faut être beaucoup plus ambitieux que ça, parce qu'en fait aujourd'hui, on voit que la demande d'information sur l'abattage, il y a des demandes très différentes. Il y a des demandes sincères comme celles qui sont exprimées, d'autres qui le sont moins. Mais je pense que l'abattage, là, ça travaille quelque chose chez nous. Et si on s'intéresse vraiment à la vie de l'animal,
évidemment,
ce qui est important, c'est toute sa vie et pas juste l'abattage.
Et c'est aussi la raison, j'imagine, pour laquelle on réfléchit sur la viande plus que sur les légumes, parce qu'effectivement, ça nous parle évidemment différemment. Aurélia Varin, sur cette, et c'est comme ça que vous conclurez d'ailleurs, Aurélia, sur cette problématique de l'abattage et sur l'idée de se dire laissons les éleveurs abattre les animaux, qu'est-ce qu'on en dit ?
On en dit effectivement qu'on les comprend tout à fait. Nous, on a régulièrement des témoignages d'éleveurs qui effectivement sont aussi scandalisés que nous de la manière dont ça peut se passer. Et que d'un point de vue éthique et d'un point de vue philosophique, mais aussi scientifique, on ne peut pas décider des moments qui sont importants à prendre en compte en termes de souffrance dans la vie d'un animal. Le seul choix possible à faire, c'est bien de prendre en compte l'ensemble des stades, de sa naissance à l'abattage. Et c'est ce qui a été fait dans l'étiquette bien-être animal. Et ça nécessite beaucoup de contrôle et ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'échanges. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit parce que c'est une question qui a été posée d'un point de vue scientifique et qu'on ne peut pas répondre. Est-ce que du coup, un porc qui a vécu toute sa vie dans de bonnes conditions on peut accepter qu'il souffre pendant sa dernière heure de vie. Il se trouve que la science et la philosophie nous répondent en nous disant que on doit faire en sorte, tant qu'on peut, d'améliorer et ses conditions d'élevage et ses conditions d'abattage.
La science et la philosophie, parce que là aussi, quand on parle d'animaux, y compris ceux qu'on mange, ce sont des choses qui rentrent en ligne de compte. Je vous remercie chaleureusement tous les deux. Merci aussi à Manon Pisani, à vos très nombreux appels comme chaque soir.